Survival International aide les peuples indigènes à défendre leur vie, protéger leurs terres et déterminer leur propre avenir. Jean-Patrick Razon, directeur de Survival France, nous parle du prix du Greenwashing 2010, récemment décerné.
Le prix a été décerné à une compagnie brésilienne qui s'appelle, le nom importe peu, Yaguarate Pora, qui possède une très très grande partie du territoire des Indiens Ayoreo Totobiegosod, qui vivent dans le Chaco paraguayen. C'est une très très grande région au nord du Paraguay qui se continue du côté argentin. Le greenwashing, c'est la traduction qui n'est pas très très bonne en français, ça veut dire blanchiment écologique. C'est-à-dire que si une compagnie fait des dégâts environnementaux dans une partie du monde, elle veut redorer son image et dans ce cas, elle a déclaré qu'elle allait promouvoir la création d'une réserve naturelle dans une petite partie du territoire qu'elle est en train de déforester à très très vive allure au bulldozer. C'était un peu pour masquer les dégâts environnementaux que la compagnie fait sur le territoire qu'exploite cette compagnie. Des Indiens vivent. En fait, c'était leur territoire originel, etc., mais il a été petit à petit usurpé, spolié par le gouvernement, par les compagnies, vraiment implanté sur le territoire ancestral d'Indiens qui sont en contact avec le monde extérieur que depuis très très peu de temps, depuis les années 40-50. Et ces Indiens ont énormément souffert des contacts avec les Blancs qui sont venus coloniser leur territoire. Dans les années 40, c'était les Mennonites qui sont arrivés pour coloniser la région. Il y a eu énormément d'affrontements et beaucoup de morts. Les Indiens ont résisté, mais les Mennonites ont réussi à s'implanter. Et ensuite, quelques années plus tard, sont venus des missionnaires évangélistes nord-américains. C'est les New Tribes Mission, la mission des nouvelles tribus, et qui ont été épouvantables. C'est-à-dire que, sous prétexte d'évangéliser, on organisait des chasses à l'homme contre les Indiens qui étaient rétifs et qui n'avaient pas du tout envie de se faire évangéliser. Et ça a été une catastrophe. Et alors, à ce moment-là, une partie de ces Indiens, de ces Ayoreo, a décidé de fuir le monde blanc nocif, et s'est isolé, et a rejoint des groupes qui vivaient déjà dans l'isolement. Il se trouve que ces gens qui vivent dans l'isolement sont extrêmement vulnérables au contact avec l'extérieur, parce qu'ils n'ont pas la même immunité que nous. Et alors non seulement la compagnie abat la forêt, leur territoire, mais elle les prive de toutes les ressources dont ils dépendent étroitement pour survivre. Parce que quand on détruit la forêt, il n'y a plus de gibier, parce que c'est une population de chasseurs-cueilleurs. Cette réserve naturelle est grotesque, parce que la compagnie possède à peu près 80 000 hectares et qu'elle est en train de transformer en pâturage. C'est pour de l'élevage. Hein. La réserve qu'ils ont ridiculement proposée fait un peu plus de 15 000 hectares. Les Indiens de cette tribu, ceux qui sont en contact avec l'extérieur, font des démarches juridiques depuis 1993 pour revendiquer la propriété de leur territoire. Et leur territoire est toujours aux mains de propriétaires privés, comme cette compagnie brésilienne.
Au niveau de Survival International, donc vous êtes un volet médiatique, en fait, c'est ça ?
Voilà, et on va sur le terrain régulièrement. Il y a, en fait, le siège de l'organisation est à Londres, et c'est là que se décident les campagnes qui sont menées,
d'accord,
suivant certains critères. Et les gens vont sur le terrain à la rencontre des communautés, des organisations indigènes, qui sont très nombreuses et qui sont très, très efficaces, et des ONG locales de soutien à ces gens. Il y a deux types d'organisations. Il y a les organisations indigènes et les organisations indigénistes. C'est-à-dire c'est des organisations de soutien, comme nous, on le fait pour le monde entier, eux le font localement. Nous sommes en relation constante avec les communautés, les organisations indiennes et ces organisations de soutien local.
Donc vous relayez ces informations.
C'est à la demande des gens. C'est-à-dire que nous, on n'agit pas, on ne fait pas du tout du développement. C'est-à-dire on ne fait que du plaidoyer, que de la mobilisation de l'opinion publique. Et les communautés, les organisations indiennes savent bien. Et en fait, elles savent bien que l'opinion publique peut avoir un certain poids. C'est-à-dire quand une situation telle que celle que vivent les Ayoré Totobio Sogod, tant qu'elle n'est pas connue à l'extérieur, les compagnies ou les gouvernements peuvent agir en toute tranquillité, en toute impunité. À partir du moment où c'est connu, l'image et du gouvernement et de la compagnie
est mise en jeu.
C'est connu. Et en fait, par exemple, le prix du greenwashing, là, le jour où il a été remis, il y a eu des manifestations devant les représentations diplomatiques à Londres et à Madrid, et on a été remettre une lettre ici à l'UNESCO.
Donc ça a déclenché une vive réaction de la part des citoyens.
Ça a déclenché une réaction de la part des citoyens ici, mais qui a eu des répercussions là-bas. C'est ce qui est important, si vous voulez.
Et au niveau donc de cette organisation qui est mondiale, donc Survival, combien de personnes font partie de ce réseau, sachant qu'en France, donc c'est une association, et au niveau de la branche française, combien de personnes aussi en font partie?
À peu près 5 000. Et puis il y a à peu près 35 000 personnes dans le monde qui sont des sympathisants, des membres, des donateurs, des sympathisants. C'est une petite organisation. Notre combat n'est pas un combat très très facile, si vous voulez. C'est pas du concret. On ne creuse pas des puits, on ne construit pas des hôpitaux, on ne soigne pas les gens. Notre préoccupation vise des gens qui sont beaucoup trop lointains et vise des questions qui peuvent paraître anodines vis-à-vis de grandes catastrophes. Par exemple, quand vous comparez ce qui s'est passé à Haïti et ce qu'on défend nous, c'est-à-dire la survie d'une poignée de gens, ben, je veux dire, les gens nous disent « Attendez, il y a quand même une différence d'échelle. » De ça, c'est très bien qu'on se mobilise pour Haïti, mais c'est aussi très très important qu'on se mobilise pour les derniers représentants de gens qui ont su habiter en harmonie avec l'environnement, qui sont aujourd'hui détruits au nom du progrès. Au début de l'organisation, on soutenait énormément de causes, et en fait, on a concentré nos efforts sur les gens les plus vulnérables de la planète, des très très petits groupes. Par exemple, une de nos campagnes, c'est en faveur d'un groupe dont il ne reste que 5 personnes au Brésil, c'est les Akunsu. On défend aussi un groupe qui n'est constitué que d'une seule personne, un monsieur qui vit dans un trou, qui ne veut absolument pas être dérangé, qui ne veut avoir aucun contact avec le monde extérieur, et qui est le dernier représentant de son groupe.
Par rapport à Survival, pour agir à vos côtés, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications?
On peut soutenir l'organisation de différentes manières. Il faut savoir qu'on est absolument financé que par nos membres et nos donateurs. C'est uniquement des fonds individuels qui nous parviennent. On refuse toute subvention gouvernementale pour des raisons évidentes d'indépendance. L'argent, on ne l'envoie pas sur place, mais l'argent, il sert à faire des campagnes que eux nous demandent de faire. On a besoin de moyens pour lancer des campagnes à la demande des communautés, des organisations indigènes. Et puis, on a aussi beaucoup besoin, mais surtout, beaucoup besoin de gens qui se mobilisent à nos côtés. Alors, sur notre site, il y a des pistes, on peut écrire des lettres à des gouvernements ou à des entreprises qui ne tiennent pas compte des droits des peuples indigènes. Et en fait, une lettre, c'est pas du tout anodin. Avec l'expérience que nous avons, on a 40 ans cette année, on s'est rendu compte qu'une lettre représentait une lettre d'une personne représente l'opinion de 100 personnes auprès de celui qui la reçoit. On a réussi un jour à avoir le sentiment d'un employé d'un gouvernement, dont je tairai le nom, qui nous a dit « Mais en l'espace de quelques jours, on a reçu des centaines de lettres et on pouvait mesurer comme ça l'impact que notre campagne avait. » Et ça a totalement changé la politique.
qu'avait ce gouvernement.
Voilà, et on a gagné. On a eu beaucoup de victoires grâce à ces campagnes de lettres, parce que c'est un moyen de montrer aux gens qui ne respectent pas les droits des peuples qu'on défend qu'ils ne peuvent pas le faire en cachette. Le monde le sait. Donc on a besoin de gens qui signent nos pétitions et qui écrivent des lettres. Mais on peut le faire depuis Internet. C'est beaucoup mieux si on le fait aussi en étant avec nous, c'est-à-dire en étant membre de l'organisation. Mais on peut tout à fait agir par Internet.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler le site?
Oui, le site, c'est survivalfrance.org.